livre des Juges, chapitre 4. J'aimerais lire le chapitre 4, cet après-midi, Dieu voulant, le chapitre 5. Mais les deux chapitres sont intimement liés. Quelquefois, je vais référer déjà ce matin au chapitre 5. Juges 4. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Or, Ehud était mort, et l'Éternel les vendit à la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Et le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Harosheth des Nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprima fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. Et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Et elle habitait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et elle envoya et appela Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh de Nephtali. Il lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pas commandé ? Va et rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. Et j'attirerai vers toi, vers le torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, et ses chars et sa multitude, et je le livrerai en ta main. » Et Barak lui dit, « Si tu vas avec moi, j'irai. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. » Et elle dit, « J'irai bien avec toi, seulement ce ne sera pas à ton honneur dans le chemin où tu vas, car l'Éternel vendra Sisera en la main d'une femme. » Et Déborah se leva et s'en alla avec Barak à Kedesh. Et Barak rassembla Zabulon et Nephtali à Kedesh. Et 10 000 hommes montèrent à sa suite. Et Déborah monta avec lui. Or Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse, et avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsaanaïm, qui est près de Kedesh. Et on rapporta à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et Sisera rassembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Harosheth des Nations, au torrent de Kizon. Et Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est ici le jour où l'Éternel livrera Sisera en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, et 10 000 hommes après lui. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous ses chars et toute l'armée par le tranchant de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth des Nations. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Et il n'en resta pas un seul. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. Et Jaël sortit à la rencontre de Sisera, et lui dit, « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, ne crains point. » Il se retira chez elle, dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Et il lui dit, « Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit l'outre du lait, et lui donna à boire, et le couvrit. Et il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et s'il arrive qu'on vienne et qu'on t'interroge et dise, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu diras non. » Et Jaël, femme d'Héber, prit un pieu de la tente et mit le marteau dans sa main, et elle vint vers lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe, de sorte qu'il pénétra dans la terre. Or il dormait profondément et était fatigué. Il mourut. Et voici Barak qui poursuivait Sisera. Et Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et il entra chez elle, et voici Sisera gisait là, mort, et le pieu dans sa tente. Et en ce jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. Et la main des fils d'Israël avançait toujours, et pesait durement sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eurent retranché Jabin, roi de Canaan. Et Déborah chanta en ce jour-là avec Barak, fils d'Abinoam, en disant, qui va lire le restant cet après-midi. Nous avons vu déjà, la dernière fois, que le livre des Juges parle d'un peuple, du peuple d'Israël dans le pays promis. Et nous avons vu aussi que ces choses nous ont été données comme avertissement, comme exhortation, comme encouragement, comme instruction, selon 1 Corinthiens 10 et d'autres passages dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes aussi le peuple de Dieu présentement. Dans ces jours-là, c'est un peuple terrestre. Et c'est important de réaliser que même sur ce niveau-là, Dieu va encore agir avec et par le peuple d'Israël. Et dans ce sens-là, il y a même des instructions pour le peuple terrestre, pour le futur, pour leur restauration. Mais nous aimons surtout poursuivre cette ligne de pensée qui réfère à nous, donc les leçons spirituelles que nous pouvons apprendre de ces choses. Pour un peuple céleste qui a reçu par la grâce de Dieu une portion dans le pays céleste. Le pays céleste est le ciel où le Seigneur Jésus se trouve. Les fruits du pays, c'est la récolte du pays, sont les bénédictions du pays céleste que nous pouvons récolter, pour ainsi dire. Et tout cela en vue de l'adoration. Je pense que Dieu nous a enrichis dans le Christ Jésus parce qu'il veut avoir des adorateurs. Il veut avoir du fruit. Il aime partager ses bénédictions avec nous, mais il a à cœur de les nous donner en vue de cette réponse. Et puis c'est justement là où l'ennemi entre, parce que l'ennemi ne veut pas que Dieu reçoive quelque chose d'un peuple céleste sur la terre. L'ennemi a encore contrôle sur la terre, dans un sens. Nous savons que Dieu est en contrôle, finalement, mais quand même il permet à l'ennemi qu'il soit cet usurpateur et qu'il puisse avoir, d'un sens, le contrôle sur les choses sur la terre. Donc s'il y a un peuple sur la terre, comme nous, l'ennemi va toujours essayer à empêcher à ce peuple de jouir des bénédictions célestes. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Voilà, toutes ces étendues du pays, toutes ces bénédictions ont été mises à notre disposition. Et puis Dieu veut avoir donc du fruit, comme dans l'apôtre Paul, « Béni soit le Dieu et Père. » L'apôtre Paul a redonné ces choses à Dieu. Puis, pour l'étude de la parole aussi, c'est important. Dieu veut nous instruire, comme nous avons chanté aussi dans notre cantique, mais il a en vue cette réponse. Il veut avoir une réponse. Et on pourrait dire, dans la mesure où nous donnons une réponse, dans cette mesure-là, nous avons appris les choses. Et nous avons approprié ces choses, pour nous-mêmes aussi. Mais Dieu reçoit sa portion dans son peuple lorsque nous prenons possession de ces choses. On peut voir cela surtout aussi dans le livre de Josué. Et voilà l'ennemi qui entre, parce que l'ennemi a été mis de côté dans le livre de Josué, mais il revient. Et nous avons vu que ceci se compare avec la position dans Éphésiens 6. On est là, dans la jouissance des bénédictions, et puis l'ennemi revient. Il va nous attaquer. Éphésiens 6 est très instructif là-dessus. Et puis Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour résister et pour tenir ferme et pour garder la portion que le Seigneur nous a donnée, pour garder les bénédictions, afin que l'ennemi ne les prenne pas. Nous avons donc aucune excuse si nous laissons tomber ces choses par terre, si l'ennemi nous ôte ces choses. Et nous avons vu comment cette histoire se répète, et ainsi on a vu aussi un parallèle avec l'histoire de l'Église, parce que chaque génération doit apprendre les mêmes choses. Mais l'histoire ne se répète jamais 100% exact dans la même façon. Il y a toujours des différences et on voit ça aussi. C'est dans un sens un progrès du mal. On va terminer avec Samson plus tard. Il est le seul encore dans le peuple. Dieu se sert seulement là de Samson. Ici, il se sert encore d'une femme, on va en parler, d'un homme, Barak, et de 10 000 hommes. Mais dans les jours de Samson, c'était Samson seul. Donc, le déclin va encore continuer, mais ici nous avons une nouvelle phase dans ce développement. Nous avons vu un peu que chapitre 3 correspond à la première phase de l'histoire de l'Église, caractérisée par Éphèse, le premier amour abandonné, et puis on a vu la discipline de Dieu pour remédier à cette situation-là. Là, les dieux du peuple, donc Baal surtout, et les Astaroth ont pris la place de Dieu. C'est le principe de l'idolâtrie. On en a parlé. Et puis on a vu donc l'attaque de l'extérieur dans chapitre 3, le Kushan Rishathaim, et aussi de Moab, le monde et la chair. Et aujourd'hui, dans le chapitre 4, c'est un ennemi un peu différent. C'est dans le pays et surtout le caractère de l'ennemi lui-même. Parce que on sait peut-être que ce roi, cette ville, a été détruite dans les jours de Josué. Dans Josué 11, on peut le lire, entièrement détruite, mais il revient. C'est important à nous à réaliser que chapitre 4 et 5 ne parlent pas du monde. Même tout le livre de Juges ne parle pas du monde comme tel. Ça parle du peuple de Dieu dans le pays. Ça ne parle pas d'un peuple de Dieu en Égypte ou dans le désert. Ça ne parle pas non plus du déclin dans le monde. Lorsque nous voyons autour de nous, on voit le déclin dans le monde, à plusieurs égards. Mais ce livre ne parle pas de ça. Ce livre parle du déclin au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est un aspect. Mais ce livre nous parle aussi des remèdes que Dieu donne, des ressources que Dieu donne pour donner un réveil ou des réveils. On voit chaque fois le déclin et puis un réveil spirituel, une restauration. On a vu ce cycle dans chapitre 2. Ils firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et puis là, la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Ils furent dans une grande détresse. Ils crient à l'Éternel. Ils suscitent un juge ou des juges, d'abord sauveur et puis juge. Et puis, c'est la délivrance. Mais puis après ça, de nouveau le déclin. On a vu ce cycle dans chapitre 2. Et ce cycle se répète dans un sens consécutif, comme l'histoire de l'Église, ce qui se termine à Laodicée. Là, c'est le point le plus bas. Puis, lorsqu'on compare le livre de Juges, on pourrait dire peut-être que là, toute cette histoire n'est pas encore tracée. On a besoin du livre de Samuel, 1 Samuel, pour voir ce point le plus bas dans les jours de Saul. Ça se rassemble pas mal au jour de Laodicée. Ici, dans le chapitre 4 et 5, j'aimerais suggérer un parallèle avec Smyrna. Nous savons que c'était dans la deuxième phase, dans l'histoire de l'Église. Ils ont manqué, et puis là, Dieu a permis des persécutions dans le pays, comme ici, au milieu de la chrétienté. Peut-être on va référer encore à ça, mais pour nous, c'est aussi très important de voir des leçons personnelles pour chacune de nous. C'est la même chose avec Apocalypse 2 et 3, on va lire ça, et puis on voit que chaque phase de l'Église a à dire quelque chose à nous personnellement. Et c'est ainsi avec le livre des Juges. Le livre des Juges va aussi parallèle à la deuxième épître de Timothée. Peut-être je l'ai mentionné la dernière fois déjà, mais là on voit aussi le déclin. Tous avaient abandonné l'apôtre Paul et plusieurs signes de déclin. Puis on trouve toutes les ressources nécessaires dans 2 Timothée 1 et suivant. C'est très utile aussi pour nous pour comparer cette deuxième épître de Timothée avec le livre des Juges. Peut-être c'est bon de simplement suivre le chapitre ensemble, verset 1er. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Donc c'est une nouvelle phase. Le déclin, et on a vu, c'est un peu plus bas parce que Dieu avait donné les remèdes nécessaires d'une intervention de sa grâce souveraine, mais malgré tout cela, le peuple tombe de nouveau dans le mal. Il est constaté aussi à la fin du premier verset, or Ehud était mort. Ehud, c'était donc le juge qui les avait délivrés de la puissance de Moab, qui nous parle de la chair surtout. Et on a vu ce principe lorsque un ancien est mort ou un dirigeant du peuple est mort, le peuple en général retombe de nouveau dans ce mal, dans un état de mal. Et puis là, on voit la réaction de l'Éternel. Il les discipline. Par son amour, il commence à les discipliner. C'est toujours une question de l'amour de Dieu. Il s'occupe de son peuple. On dirait, mais ça c'est très dur ça, verset 2, l'Éternel les vendit en la main de Jabin. Ça c'est dur. Mais l'amour peut être dur à cause de notre état. On peut s'endurcir, comme ici dans le verset 1er. Et puis Dieu doit agir avec dureté pour briser nos cœurs. Aussi plus tard, le résidu fidèle va le dire dans le psaume 44, « Pourquoi tu nous as vendus ?» C'est remarquable. Je mentionne deux passages qui nous parlent du fait que le peuple était vendu. Le psaume 44, verset 12, qui nous parle de ce fait que le reste fidèle dans le futur va faire une complainte. Ils diront dans le verset 12, « Tu as vendu ton peuple pour rien et tu ne t'es pas agrandi par leur prix. » Donc, c'est une complainte ici. Et le même principe on trouve dans Esther 3, verset 11, où le peuple était vendu dans la main de Haman. Mais c'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle, pas Haman, pas Jabin, mais c'est Dieu qui est en contrôle. Et c'est par son amour qu'il permet ces choses, qu'il dirige même ces choses. Et ainsi, je vois aussi un parallèle avec Smyrne, parce que là, Dieu permet, donc le Seigneur permet, ces persécutions de 10 jours. Dans l'histoire de l'Église, on peut même mentionner 10 persécutions différentes. Les 10 jours vont en parallèle avec ces persécutions. C'est la même signification. Dieu les vendit dans la main de leurs ennemis. Jabin ici, c'est quel ennemi? J'aimerais suggérer ici qu'il réfère plutôt au démon ou à Satan lui-même. Dans le pays, il y avait donc le peuple d'Israël. Mais dans le même pays, il y avait encore ces Cananéens qui étaient restés là. C'était un manque de la part du peuple. On a vu ça dans le chapitre 1er déjà, que les tribus n'étaient pas capables de déposséder le pays entièrement. Dans Juges 1, verset 28, par exemple, il rendit le Cananéen tributaire, qui était menacé, mais il ne le dépossédait pas entièrement. Et puis, un peu plus loin, on voit aussi l'Azérite, verset 32, l'Azérite a habité au milieu des Cananéens, habitants du pays, car il ne les déposséda pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, etc. Donc là, ils ont manqué. Et à cause de ce manque, l'ennemi a regagné la force. Ça, c'est donc aussi une leçon très importante pour nous. On peut vaincre l'ennemi dans notre zèle spirituel pour le Seigneur, comme dans les jours de Josué, il y a 130 ans à peu près. Il avait vaincu l'ennemi, détruit Hatsor entièrement, détruit Jabin, qui était la tête aussi d'une confédération d'ennemis contre Israël. Donc, on dirait c'est la victoire finale. Mais on voit que l'ennemi revient. Et c'est à cause de ces manques de fidélité dans le chapitre 1er, que ça arrive. Voilà, le nom de Jabin signifie intelligent ou intelligence. C'est ici donc une intelligence humaine qui s'occupe du pays, prend possession du pays selon l'intelligence naturelle. Pour jouir du pays, pour le croyant, c'est important que notre intelligence soit spirituelle et contrôlée par le Seigneur, pas par Satan. Ici, l'intelligence est contrôlée par Satan. Le roi de Canaan, Canaan veut dire marchand. C'est le principe du gain. Ils veulent gagner quelque chose. Il y a bien des gens dans le monde aussi, dans la profession chrétienne, qui habitent dans le pays, pour ainsi dire, où le principe du gain est là. Seulement à cause du gain, ils font quelque chose. Et leur intelligence est donc asservie à Satan, qui se sert de leur intelligence pour les rendre forts. On le voit aussi dans le mot Hatsor. Hatsor, sa ville, et c'est donc une place qui est enclose, comme avec une muraille, une fortification. On peut là penser aussi à l'esprit du sectarisme, qui se fait grand soi-même dans le pays. C'est ici dans le pays de Dieu que Dieu avait promis au peuple d'Israël que ces choses passent. Et on peut peut-être voir un lien aussi dans la mesure où nous sommes contrôlés par l'intelligence humaine au lieu de l'intelligence spirituelle dans la soumission de Christ. Dans la mesure où nous sommes dirigés par ce principe de gain, par cet esprit du sectarisme, dans cette mesure-là, nous sommes sous l'influence de l'ennemi. C'est ça le parallèle. Et j'aimerais lire un verset dans 2 Corinthiens 10, qui donne une clé pour ce chapitre des juges, et aussi en général pour le combat chrétien. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3, « Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Là, il y a aussi donc un contraste avec la situation d'un peuple terrestre sur la terre, et nous, un peuple céleste et spirituel. Verset 4, « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissante par Dieu pour la destruction des forteresses, comme les forteresses de l'ennemi, de Jabin, de Hatsor, détruisant les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, détruisant les raisonnements. On va voir dans le chapitre, on a lu, que Sisera était tué par ce pieu dans sa tempe. La tempe, c'est donc la place où notre intellect se trouve. Et puis, il faut donc agir dans ce sens-là. Il faut que cette influence soit mise de côté. Dieu nous donne l'intelligence. Ça, c'est un don de Dieu. Mais il faut que ce soit soumis à Christ, comme on le voit ici, versets 4 et 5. Pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, c'est contre la connaissance de Dieu. Dans la mesure où nous sommes sous l'influence de la connaissance humaine, naturelle, de l'homme, on n'est pas sous l'influence de la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est ça un peu qu'on a dans le chapitre 4, comment Sisera et Jabin étaient vaincus, et ainsi on est placé sous l'obéissance du Christ, et c'est sous la connaissance de Dieu. On va voir dans Déborah, une mère en Israël, qui avait la connaissance de Dieu et qui pouvait produire des enfants spirituels par cette connaissance de Dieu. Tout en contraste avec la connaissance du monde, la connaissance de Jabin, la connaissance des démons. Il y a aujourd'hui des gens qui écrivent des livres sous le contrôle direct des démons. C'est la connaissance de l'ennemi. Ici, le peuple de Dieu est placé sous la connaissance de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons dirigés par cette connaissance et dans l'obéissance du Christ. Et si vous voulez aussi lire Éphésiens 6, verset 10, 20, ça peut aider beaucoup dans ce combat. Mais on ne peut pas parler en détail d'Éphésiens 6 maintenant. Voilà, le verset 3, verset 2 à la fin. Le chef de son armée, on voit donc ici qu'il avait un chef. Quel contraste avec notre chef, le Seigneur Jésus, est vu justement dans l'Épître aux Éphésiens et dans l'Épître aux Colossiens comme notre chef. En contraste ici avec ce chef usurpateur, chef qui imite cette position de Christ, Sisera. Sisera, celui qui lit avec chaîne, où on peut traduire son nom aussi en rapport avec une pensée du combat, mais la pensée est là qu'il chaîne. Il lie les gens à lui-même. C'est ça le principe de l'ennemi. Il lie les gens à lui-même pour les avoir sous son contrôle. Tandis que le Seigneur Jésus, notre chef, nous lie à lui, afin que nous soyons sous sa direction. Et comme j'ai dit, même cette situation-là, dans le verset 2, est une image des événements prophétiques. Dans le psaume 83, on voit une confédération des ennemis contre Israël, et c'était aussi la question dans les jours de Jabin, pendant les jours de Josué, que ce roi avait donc cette confédération contre Israël. Parallèle avec l'histoire de l'Église aussi, tous les ennemis se sont mis ensemble contre l'Église. On peut le voir au début de l'Église, toutes ces attaques de la philosophie humaine, comment le paganisme a été introduit dans l'Église, toutes ces attaques, c'est vraiment un parallèle avec ce que nous avons dans Juges 4, verset 2. Arosette des nations, Arosette nous parle aussi donc de ces influences des païens, la rochette des nations. Et on voit dans Éphésiens 4 que nous aussi étions sous l'influence des nations, dans tous ces débauches, pas seulement la connaissance de l'homme sous l'influence de Satan, mais aussi une mauvaise morale sous l'influence de Satan, comme on voit dans Éphésiens 4. Et la parole de Dieu nous avertit que bien vite ces choses sont entrées dans l'Église. Philippiens 2, ils avaient tourné le dos vers l'apôtre Paul déjà. Acte 20, il les a avertis. On a vu ceci dans le passé déjà. Quelle réaction maintenant, verset 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Crier à l'Éternel. Ils ne sont pas en Égypte où ils ont crié de désespoir et plus tard crié à l'Éternel. Ici, c'est dans le pays même, dans le pays promis. À cause de leur infidélité, manque de foi et tout cela, ils doivent maintenant crier à l'Éternel. C'est leur seul remède qui reste. Et pour nous aussi, toutes nos ressources sont en lui, comme nous avons aussi exprimé dans nos cantiques. Puis, car Jabin avait 900 chars de fer. Donc, pourquoi? Il faut réaliser ici que ces chars étaient utilisés dans les vallées. Le peuple, par contre, était surtout supposé d'être sur les montagnes. Les montagnes parlent toujours de bénédictions du pays et qui nous lient avec le ciel. Il se trouve seulement dans les vallées. C'est bon, les vallées sont bonnes aussi selon Deutéronome 8, mais il avait quitté les montagnes. Par contre, Déborah, on va voir plus tard, elle était à Rama, ça veut dire hauteur, une place élevée. Elle avait le pays vraiment, elle jouissait du pays. Mais le peuple là, étant dans la vallée, était maintenant une proie facile pour l'ennemi. Lorsqu'on abandonne la jouissance des bénédictions que Dieu nous a confiées, on devient une proie facile pour l'ennemi. On le voit dans Philippiens 3, donner un exemple. Il y avait ceux qui avaient leur bourgeoisie. Dans le même verset, Philippiens 3, verset 19, je pense, on voit ceux qui ont le ventre comme leur Dieu. Donc, ce sont des chrétiens qui servent maintenant leur ventre comme leur Dieu. On a le choix. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais ainsi, ils sont devenus une proie facile pour l'ennemi. Parce que ces 900 chars n'avaient aucune puissance sur les montagnes, seulement une puissance dans les vallées. Puis ces chars avaient des couteaux à côté des roues. Donc, ils ont couru dans les vallées. Et puis les couteaux ont blessé et tué les gens qui se trouvaient là. Donc, c'était vraiment une puissance terrible, là, dans les vallées. Il opprima fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. C'était donc une longue période de temps. Comme Jacob dans Haran, et dans les jours où l'arche n'était pas avec le peuple, seulement dans la maison d'Obed, non? C'était dans la maison, dans 1 Samuel 7, j'ai oublié le nom. C'était aussi une période de 20 ans, 20 ans d'oppression. Puis cela donne maintenant l'occasion pour un exercice spécial parmi le peuple. Verset 4. Ils ont crié, mais Dieu introduit maintenant une solution dans la personne de Déborah. Là, on voit 7 points que j'aimerais souligner, mais avant que je l'oublie, Dieu se sert donc d'un vase très spécial, d'un vase faible. On a vu déjà dans ce principe dans Othniel. Othniel, il était plus jeune que son frère Caleb, ou en tout cas, il était plus jeune que Caleb, qui était aussi son beau-père. On a vu le même principe dans Ehud, qui était gaucher, et Dieu s'est servi de lui. On a vu le même principe dans Shamgar, qui s'est servi d'un aiguillon. Bœuf, imaginons-nous, imaginons que et on voit clairement que Dieu se sert donc des vases, soit méprisés ou inférieurs, mais c'est exactement la grâce de Dieu qui se sert de tels vases, pour que la gloire soit de Dieu, pour que ça vienne vraiment de lui, que lui soit à la source de ces choses. Et il y a un autre aspect donc à considérer, les hommes ont manqué, on a vu ça dans le chapitre 1er, et à cause de ça, Dieu doit se servir d'une femme maintenant. On ne doit pas avoir l'impression que c'est pour dire quelque chose de négatif sur les femmes, parce qu'elles sont très importantes dans le témoignage de Dieu, mais elles ont leur propre place. Mais ici, on voit que Dieu se sert d'une femme et qu'il lui donne une place anormale, pour ainsi dire, dans le témoignage de Dieu, à cause du manque de l'homme. On a deux femmes dans ce chapitre. Ça souligne donc ce principe. À cause du manque du peuple, et dans le deuxième cas, Jaël, à cause du manque de son mari, parce que son mari avait fait la paix avec Jabin. On va voir ça un peu plus loin. Donc, dans verset 4, Déborah, son nom signifie abeille. Abeille, ça nous fait penser au pays ruisselant de lait et de miel. Le miel, c'est un fruit du pays. Donc, elle jouissait, selon la signification de son nom, du pays. C'est très beau de voir ça. Ici, comme j'ai mentionné déjà, une femme sur la montagne qui jouissait du pays. Elle est en accord avec le caractère du pays, avec les bénédictions du pays. Son nom peut dire aussi la parole, ou lié au mot « déber », veut dire « parole ». On a vu ce principe en rapport avec Othniel, cette ville qu'il a conquise. Était Débir, oracle. On a vu le même principe avec Ehud, la petite épée, qui nous parle de la puissance de la parole de Dieu par l'Esprit pour l'utiliser exactement dans une situation spécifique. Éphésiens 6 nous montre aussi l'épée de l'Esprit. Cet aiguillon qui transperce, qui perce de Shamgar, ça se réfère aussi à la parole de Dieu. Ici, Déborah, dans le pays, qui jouit du pays, est caractérisée par la parole de Dieu. Elle est une prophétesse. Une prophétesse qui révèle la pensée de Dieu, selon l'autre signification de son nom liée à la parole. Une prophétesse. Mais elle Et puis on va revenir à cet aspect-là de prophétesse, c'est très important. Femme de Lapidote, elle était elle-même placée sous l'autorité de son mari. Elle n'était pas comme une reine, là, seule dans le pays, mais placée sous l'autorité de son mari, comme Jaël aussi, dans l'attente, comme on va voir plus tard. Lapidote, peut-être on peut traduire ce nom par des lumières ou des torches brûlantes. Là, l'effet de la parole, c'est comme une lumière dirigée par l'Esprit. Elle jugeait Israël. On va voir qu'elle est aussi une mère en Israël. Mais elle jugeait Israël. Elle avait donc la place d'un homme, dans un sens, dans cette période-là. Donc, ça nous montre que la situation était anormale. Mais Dieu s'est servi d'elle pour le bien de son peuple. Et Dieu peut se servir donc d'un vase faible, duquel il ne servirait pas dans des circonstances normales. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se sert pas des femmes en général, mais selon leur place. Dieu a dans sa pensée une place spéciale pour les sœurs, pour les femmes, une place que l'homme ne peut pas occuper. C'est impossible. Mais ici, on voit qu'elle, ayant cette place, prend aussi la place de l'homme, selon les pensées de Dieu, parce que l'homme a manqué. C'est ça le point à saisir. Elle jugeait Israël en ce temps-là, et elle habitait sous le palmier de Déborah. Donc, elle est vue ici comme vainqueur. Le mot, donc l'arbre, le palmier, nous parle dans la parole de Dieu de la victoire. On le voit aussi dans Apocalypse 7, par exemple, Psaume 92, et plusieurs références qui nous parlent du principe de la victoire en rapport avec le palmier. Voilà, dans Apocalypse 2 et 3, on voit sept catégories de vainqueurs. Dans l'Évangile selon Jean, on voit sept miracles pour former les vainqueurs. Et ici, on voit quelqu'un qui est un vainqueur dans le pays. En notant, il faut bien noter, c'est toujours dans le pays, ici, qu'on doit être des vainqueurs pour garder les bénédictions du pays, garder la jouissance de cette vie éternelle que Dieu partage avec nous. Donc, ça c'est une autre caractéristique de cette femme, elle est vainqueur. Entre Rama, c'est une place élevée où elle habitait, ou plus tard Samuel a habité aussi, et Bethel, la maison de Dieu. Donc, dans la pleine jouissance du pays, des bénédictions du pays, elle était loin du combat, ça c'est aussi un point à remarquer. Elle n'habitait pas au nord, là où l'ennemi exerçait sa puissance. Elle était au milieu du pays. Mais quand même, comme une vraie mère en Israël, elle avait soin des intérêts de Dieu pour tout le peuple de Dieu. Et c'est aussi une leçon pour nous d'avoir de l'intérêt pour tout le peuple de Dieu. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu révèle ses pensées, où il y a aussi l'accès pour nous approcher de Dieu. Et Bethel nous parle de la maison de Dieu en rapport avec tout le peuple de Dieu aussi. Ce n'est pas seulement pour une partie exclusive. Bethel s'est donné pour tout le peuple de Dieu, comme on le voit dans le Nouveau Testament. C'est donc sa position. Et aussi pour nous, pour vraiment jouir du pays et de ses bénédictions, il faut vraiment avoir ces sept caractéristiques qu'on voit ici en Déborah. Dans la montagne d'Éphrim, c'est souligné ici, la montagne d'Éphrim. Éphrim parle donc de la fertilité, d'une place spéciale au milieu du peuple. La montagne, c'est souligné de nouveau, en contraste avec les vallées, qui étaient beaucoup plus basses, où l'ennemi avait Israël comme sa proie. Verset 5 à la fin, et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc ça souligne ce que j'ai dit auparavant, sa place extraordinaire qu'elle avait, à cause du manque de l'homme en général. Verset 6, et elle envoya. Maintenant, elle parle avec autorité. C'est la parole prophétique. On va voir dans chapitre 5 l'effet de son ministère, comment elle a formé pendant ses 20 ans une génération de vainqueurs. Et puis maintenant, elle parle avec autorité selon cette parole prophétique et appela Barak. Barak veut dire éclair, fils d'Abinoam. Abinoam veut dire père de celui qui est agréable. Comment ça se lit? Comment Barak peut être agréable et quand même éclair? Là, on voit un des secrets dans la parole de Dieu, cette balance entre la lumière et l'amour, par exemple, la grâce et la vérité. C'est un principe qu'on voit toujours dans la parole de Dieu, cet équilibre entre la grâce et la vérité. De Kedesh, de Nephtali. Kedesh était une ville de refuge, une place très spéciale. Nephtali, C'était justement là où les Cananéens habitaient et avaient regagné leur puissance. Nephtali avait manqué, et avec lui aussi d'autres tribus qui étaient au nord là, ils avaient manqué, comme on a vu dans le chapitre 1er, et là, eux étaient responsables, plus que les autres tribus du pays, pour maintenant monter contre l'ennemi. Parce que là, il y a un principe, Dieu veut aider. Il les avait vendus, comme nous avons vu, mais ils se sont humiliés, et même maintenant, Dieu veut aider, mais il se sert de son peuple. Il veut que le peuple réalise leur propre responsabilité. Il avait manqué à subjuguer l'ennemi, maintenant ils doivent le faire avec l'aide de Dieu. Donc, elle parle avec autorité, comme nous avons vu verset 6, mais c'est l'autorité que Dieu lui a donnée, parce que c'est Dieu qui a commandé. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pas commandé? Donc, elle parle, elle représente Dieu, et puis c'est selon sa souveraineté. Va et rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Naphtali. C'était les deux tribus et les fils de Zabulon. Les deux tribus les plus responsables, là, dans cette région-là. Selon Josué 19, on voit que Hazor était dans Naphtali. Hazor, cette ville-là, qui était détruite donc, avait été détruite par Josué, a été rebâtie par l'ennemi dans la tribu de Naphtali. Eux ont manqué donc, grandement. Et maintenant, Dieu se sert d'eux pour détruire l'ennemi. Mais seulement dans la mesure où leur état est bon, où leur condition morale est bonne. Il y a des manques, comme on va voir, mais à la fin du chapitre, on a vu la victoire finale. Barak lui dit maintenant, ça nous montre la faiblesse donc de Barak. Dans Hébreux 11, il est mentionné comme un héros de la foi, un homme de foi. Mais ici, on n'en voit pas beaucoup de foi. Ça nous arrive facilement. Il a même fait une condition, il a dit, si tu vas avec moi, j'irai. Donc, ça nous montre sa faiblesse. Il a ôté, il a abandonné sa place. Selon Genèse 2, on voit que l'homme est le chef. Il a abandonné cette responsabilité. Et ainsi, on voit que Sisera est devenu le chef. Mais Déborah, par la grâce de Dieu, elle prend l'initiative, dans un sens, elle prend la place du chef, mais comme représentant Dieu. Et ainsi, elle forme Barak et les autres pour maintenant faire face à leurs responsabilités. Elle les élève, pour ainsi dire. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Donc, il n'a pas réalisé vraiment qu'il devrait dépendre entièrement de Dieu. Et nous aussi, nous dépendons facilement d'un instrument ou d'une personne ou d'une organisation ou de quoi que ce soit au lieu d'être dépendant de Dieu. Verset 9, et elle dit, j'irai bien avec toi. Puis là, la conséquence est donc que l'honneur ne sera pas à Sisera. L'honneur de la victoire sera donné à une femme. Donc de nouveau, l'homme manque, une femme prend sa place, aussi dans l'honneur. Et puis là, on voit déjà une référence à Jaël à la fin du chapitre. Et Déborah se leva et s'en alla avec Barak à Kedesh. Verset 10, et Barak rassembla Zabulon et Naphtali à Kedesh. Donc cette ville de refuge, c'est toujours beau, de prendre notre place dans une ville de refuge, mais ici, c'est pour se préparer pour l'attaque contre l'ennemi. Verset 11, il y a un détail particulier. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens. Voilà, on a vu donc dans le chapitre 1er que les Kéniens étaient au milieu du peuple de Dieu, et ici, il y avait un homme qui s'était séparé du peuple de Dieu. Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'était parce qu'il voulaient être séparés du mal, ou bien ils étaient séparés de leur humiliation. Parce qu'on a vu, ils ont crié à Dieu, n'est-ce pas? Et dans le verset 17, on voit qu'il y avait paix entre Jabin, roi de Hazor. Donc moi, j'aime suggérer que Héber a manqué ici. Héber, il s'est séparé du peuple de Dieu lorsqu'ils se sont humiliés à cause de l'influence de Jabin et de Sisera. Et par contre, Héber, il s'est associé à Sisera. Donc moi, je vois ça dans un sens négatif. Mais sa femme, par contre, là où son mari manque, parce qu'il n'appartenait pas au peuple de Dieu vraiment, mais il habitait au milieu du peuple de Dieu. Et Jaël sympathise avec le peuple de Dieu, malgré la position que son mari avait prise. Puis c'est aussi une leçon très pratique pour nos sœurs. Il y a beaucoup de sœurs où le mari est encore associée au monde, mais la sœur, tout en étant soumise, doit quand même avoir à cœur les intérêts du peuple de Dieu, comme on le voit ici. Verset 13, on voit donc que les soldats se rassemblent, l'ennemi se rassemble maintenant avec ses chars. Et puis là, aussi longtemps que Barak était sur la montagne, il était là en sécurité. Mais maintenant, il doit montrer sa foi. Verset 14, Déborah dit à Barak, lève-toi. Donc de nouveau, c'est elle qui prend l'initiative, mais lui, il a quand même la foi parce qu'il va descendre maintenant. Elle dit, l'Éternel n'est-il pas sorti devant toi? Quel contraste avec le verset 2. L'Éternel les avait vendus à la main des Jabins. Maintenant, à cause de leur humiliation, ils ont crié, ils se sont humiliés. Dieu est de nouveau à leur côté, à côté de son peuple pour aider. Ça, c'est merveilleux de voir comment il s'identifie maintenant avec eux publiquement pour aider. Verset 15, l'Éternel mit en déroute Sisera. Dans le chapitre 5, on peut voir comment ces choses se sont concrétisées. Dans le chapitre 5, verset 20, on a combattu des cieux. Ils sont donc descendus de la montagne comme une pluie, disons. Et en même temps, Dieu a donné beaucoup de pluie du ciel. Les étoiles ont combattu contre Sisera. Peut-être on peut penser à une intervention semblable comme dans les jours de Josué, dans le chapitre 10, comment Dieu a jeté la grêle pour détruire l'ennemi. Quoi qu'il en soit, dans 5, verset 21, nous lisons, le torrent de Kizon les a emportés. Donc, probablement, le torrent, à cause de la pluie, est devenu très fort et les a emportés. L'ennemi qui était là dans la vallée, dans le torrent de Kizon, qui était souvent très bas, ou un torrent très petit, mais la vallée était plus grande. La vallée s'est remplie d'eau, puis a emporté une partie de l'ennemi. Mais, ça, c'est l'intervention de Dieu. Mais il faut quand même que Barak descende. Et ça, c'est un principe très important. Dieu peut détruire l'ennemi tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Mais il aime nous impliquer dans ce combat. Aussi pour faire face à notre responsabilité. Il avait manqué dans leur responsabilité. Maintenant, ils doivent réaliser leur responsabilité dans l'exercice de la foi. Il donne l'assurance qu'il sera devant eux, donc, c'est beau, si l'Éternel est devant nous, ça doit aller bon, mais il faut quand même que le peuple aille eux-mêmes, par la foi. Verset 15, l'Éternel mit en déroute Sisera. On a vu un parallèle avec chapitre 5, verset 20 et 21. Et puis là, on voit donc que Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet des nations. C'était leur combat, il fallait que eux poursuivent les chars et l'ennemi. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Donc le Seigneur donne la force pour cela. Et j'aimerais remarquer ici, si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il y avait des choses que eux ne pouvaient pas faire, comme donner cette pluie ou cette grêle. C'est Dieu qui a donné ça. Mais eux devraient poursuivre l'ennemi par la foi et par la force que Dieu donne. C'est la même chose avec le futur pour le peuple d'Israël. Les résidus futurs vont combattre les ennemis, par la direction du Seigneur Jésus, mais c'est eux qui vont combattre les ennemis. Dans les jours d'Esther et de Mardoché, on voit le même principe. Il fallait qu'ils se lèvent contre leurs ennemis pour les attaquer. Et Esther 8 et 9, on voit ça clairement. Puis pour nous, c'est donc le même principe. Dieu veut que nous fassions ce combat personnellement, dans la foi, dans la force que Dieu donne, pour pouvoir jouir de nouveau des bénédictions du pays. Maintenant, on voit donc que Dieu se sert d'une femme, de nouveau donc, un vase faible, mais en soi, ce n'était pas incorrect, elle était dans sa tente. Elle a gardé sa place, comme Déborah avait gardé sa place sous l'autorité de son mari, et ainsi Jaël aussi, malgré le fait que son mari avait cette alliance avec Jabin, on voit qu'elle agit par la foi. Et puis, dans le verset 21, on voit donc comment Jaël, femme de Héber, prit un pieu de la tente et mit le marteau dans sa main, et elle vint vers lui doucement. C'était un secret entre Dieu et lui. C'est comme le Nazaréen qui a ce secret entre lui et Dieu. Et dans la puissance de la foi, elle a agi On n'a pas à faire de telles choses, comme nous avons vu dans 2 Corinthiens 10, pas littéralement le combat contre la chair, comme ici, mais c'est pour nous des principes spirituels. C'est un combat spirituel. Donc ici, on voit que c'est possible pour une sœur de détruire, à l'intérieur de sa sphère, de sa tente, l'influence de l'ennemi. Puis c'est aussi une leçon pour nous tous, dans nos maisons, de détruire cette influence de l'ennemi. Et on voit à la fin donc, comment ceci est présenté, verset 22, « Il entre ses ailes, et voici Sisera gisait la mort, et le pieu dans sa temple. » On voit donc, de verset 21, que le pieu entre dans sa temple, et puis il était tué. Puis j'ai remarqué déjà que la temple, c'est donc, ça suggère la place de notre intelligence, et puis ainsi, elle a vaincu l'ennemi. Le centre de ses pensées, sous le contrôle de l'ennemi, était maintenant détruit. Et ainsi, nous devons radicalement détruire l'ennemi dans ce sens-là, qu'il ne puisse pas avoir le dessus, qu'il ne puisse pas avoir le contrôle sur nous par les pensées de ce monde. Éphésiens 4 et Colossiens 2, par exemple, on peut voir cette influence de ce monde. Puis, il faut que nous soyons contrôlés par Christ et soumis à lui sous son obéissance. Et on voit verset 23, « En ce jour-là, Dieu abattit Jabin. » Vous voyez le côté de Dieu, c'est Dieu qui abattit Jabin, mais il se sert de son peuple, il se sert d'une femme pour diriger le peuple, Déborah, il se sert d'une femme pour tuer Sisera, il se sert aussi des fils d'Israël qui ont repris leurs responsabilités. Et puis je pense que le cantique se lit au verset 23, mais dans le verset 24, on voit que la victoire n'était pas encore définitive. L'armée était détruite, mais le combat continuait, verset 24, et la main des fils d'Israël avançait toujours et pesait durement sur Jabin. En contraste avec ce qu'on a dans le chapitre 1er, là on voit toujours que la résistance d'Israël diminue. Ici on voit que leur résistance augmente et qu'ils deviennent plus forts jusqu'à ce qu'ils eurent retranché Jabin, roi de Canaan. Lui était à l'origine de tout ça. Donc, en arrière de Sisera, on peut voir donc le roi qui nous parle du diable lui-même. Puis ici, l'influence du diable est donc graduellement mise de côté. Mais peut-être à cause du manque de Méroz, on va voir cet après-midi dans verset 23, « Maudissez Méroz. » Méroz était une ville en Nephtali, tout près de Hatzor. Et puis, eux n'ont rien fait. Lorsque l'armée est rentrée, il aurait pu tuer l'armée de Jabin. Ils n'ont pas fait. Et peut-être à cause de ça, le combat a dû continuer plus longtemps. Puis ici, on voit des manques partout. Même là où Dieu donne la victoire, il y avait des manques parmi le peuple, comme Méroz. Mais le résultat est quand même tellement que Déborah peut chanter. Puis cet après-midi, Dieu voulant, on va parler plutôt de Déborah, parce que chapitre 5 nous révèle vraiment comment ces choses ont été réalisées. C'était par la direction spirituelle que Déborah avait donnée comme prophétesse qu'elle avait formé une nouvelle génération de soldats, une mère en Israël. Donc c'est un peu le sujet de cet après-midi. S'il y a encore des questions, on peut discuter peut-être maintenant. Moi j'ai l'impression que Déborah était instruite d'abord par l'Éternel et que, comme prophétesse, elle connaissait les pensées de Dieu et puis elle peut instruire Barak maintenant. Mais ce n'est pas sur son autorité qu'il va aller. Il va aller sous l'autorité de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'elle répète ici, n'est-ce pas l'Éternel lui-même qui l'a commandé. Donc elle représente l'Éternel, elle instruit Barak, mais Barak ne va pas à cause du fait que Déborah l'a dit. Il va aller à cause du fait que Dieu l'a commandé. Ça. Mais peut-être Dieu a instruit en même temps Barak aussi. Mais mon impression, c'est comme je l'ai dit. Mais là aussi, c'est Déborah qui prend l'initiative, qui instruit. C'est elle qui dit ça. Puis là, Barak le réalise. Mais de nouveau, ça nous montre que c'est sous l'influence de Déborah qu'il agit. Mais sous l'autorité de Dieu. Mais d'un autre côté, on voit ça aussi dans le chapitre 5. C'est Déborah qui forme ses soldats et aussi le général Barak lui-même. C'est sous son instruction.